qu'il y a quelque chose de vrai lorsque Marx prétend regarder l'homme pour lui-même et non plus tout dans la lumière de Dieu. Alors d'abord, quelques généralités. Karl Marx est né à Trèves le 5 mai 1818 d'un père juif converti au protestantisme pour conserver sa charge d'avocat. Marx fut athée dès son enfance. En 1835, il entre à la faculté de droit de l'université de Bonn, puis à Berlin en 1836. Dès 1837, il fréquente la gauche hegelienne, qui ne retient de Hegel que la dialectique et prône la révolution. Et bientôt, il s'en sépare, car il veut unir la théorie avec la pratique révolutionnaire. Marx quitte ensuite l'Allemagne pour s'installer à Paris en 1844. Là, il scelle une amitié qui ne se démentira jamais avec Engels, Friedrich Engels. Expulsé de France en 1845, il va à Bruxelles. En 1847, il s'inscrit à la Ligue des communistes, dont la devise qui était « Tous les hommes sont frères » va devenir sous son influence un cri de ralliement « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». À la faveur des troubles de 1848, il rentre en Allemagne, à Cologne, où il travaille activement pour le mouvement démocratique et communiste. En 1849, après l'échec du mouvement de Cologne, il est expulsé d'Allemagne et s'établit définitivement à Londres, où il vit souvent dans la misère. Mais il ne cesse pas de s'intéresser au mouvement ouvrier et prend part à la fondation de la Première Internationale. Dans les dernières années de sa vie, Marx s'intéressa beaucoup à la Russie, y voyant un point de départ propice à la révolution communiste. Enfin, il meurt le 14 mars 1883 et est enterré à Londres. Alors, ses principales œuvres, je vais marquer au tableau, Différence de la philosophie de la nature, chez Démocrite et Épicure, et là, on voit bien, il manifeste bien son athéisme. C'est sa thèse de doctorat. Il y a les manuscrits de 1844 qu'il a écrits à Paris. C'est une étude d'économie politique sur Smith, Ricardo et Say. La Sainte Famille, écrit aussi en 1844 avec Engels, où il critique l'hégélianisme de gauche. L'idéologie allemande, en 1845, rédigée avec Engels. Le Manifeste du Parti communiste, en 1848, rédigé aussi avec Engels. Contribution à la critique de l'économie politique en 1859. Et enfin, en 1867, Le Capital, qui ne sera publié totalement qu'après sa mort. Alors, je vais vous présenter l'aliénation qui est pour Marx, le grand mal à détruire. Et le remède, pour lui, c'est la praxis. Alors, ce n'est pas la praxis au sens aristotélicien, étant donné que pour lui, dans la praxis, l'activité productrice qui ne comprend que le facere et qui ne fait absolument pas mention de la dimension éthique qui est présente chez Aristote. Alors tout d'abord, le thème de l'aliénation, au sens juridique, aliéner un droit, c'est le transférer, idée de transfert à un autre. Au sens psychologique, l'aliéné, c'est celui qui n'est plus en possession de soi, qui est comme étranger à lui-même, au monde, à la société. Le principe de l'aliénation a été emprunté à Hegel et Feuerbach et Marx l'ont transformé. Ainsi, l'aliéné, c'est l'homme projetant hors de lui un bien qui lui est intrinsèque. C'est le fait d'être dépossédé de quelque chose qui lui est essentiel au profit d'une réalité étrangère qui peut être soit une réalité illusoire, Dieu, soit une réalité positive, l'État, soit un homme, le capitaliste. La cause de l'aliénation, c'est l'inadéquation qu'il y a entre la réalité véritable de l'homme et ses conditions d'existence effective. Or, la réalité véritable de l'homme, ce sont l'universalité de sa nature, sa possibilité infinie de progrès et son indépendance. Et tant qu'il n'a pas vaincu ce conditionnement, l'homme ne fait que projeter sa propre activité sous la forme d'objets qui se dressent en opposition avec lui. D'où il résulte l'aliénation dont le scandale est d'empêcher l'homme de se mouvoir dans sa liberté et son activité. En fait, cette théorie de l'aliénation est empruntée à la critique de la raison pure de Kant, qui se pose la question : quelles sont les conditions de possibilité de la pensée objective ? Pour lui seul, l'objet de l'expérience conforme à l'esprit est valable pour le savoir. Ainsi, la réalité objective cesse d'être indépendante par rapport à l'esprit, et l'objet se ramène au sujet. C'est une réduction de l'objectif au subjectif. Ainsi, Dieu, l'État et la richesse n'ont de réalité véritable que la réalité humaine que l'homme projette en eux. Par conséquent, en se rapportant à l'objet, l'homme ne dépasse pas son être propre. Il n'y a pas de limite dans ce déploiement immanent de l'homme, dans ses objets, son activité créatrice dans lesquelles il se retrouvera toujours. C'est ainsi que Feuerbach puis Marx en sont amenés à dire que l'homme est pour l'homme l'être suprême. Il trouve donc en lui-même son accomplissement et son bien ultime. Alors, plus besoin de transcendance. C'est pourquoi on peut dire que le marxisme est un humanisme, bien qu'incomplet certes, puisqu'il ne voit en l'homme que la dimension du facheré. L'homme est donc au sommet de toute réalité, en en étant la mesure et en lui donnant sa signification. L'aliénation, cependant, est une étape nécessaire, et par la suite, il faut la supprimer et la dépasser par la critique. Ainsi, on restituera l'homme à lui-même. Et cette phase comprend deux temps, une phase idéologique et théorique qui dénonce la transposition de la réalité véritable dans l'idée de Dieu, ou la réalité du travail, dans la marchandise, etc., et qui dénonce les causes réelles et théoriques de l'aliénation. Le Capital, par exemple, dénonce l'aliénation économique. Mais ceci n'est qu'un préambule. Il faut ensuite une critique pratique et révolutionnaire. Ce sont les conditions réelles de la vie sociale qui sont cause de l'aliénation. La critique idéologique ne suffit pas. En fait, seule la révolution peut amener un état social où l'homme se réalise vraiment dans la plénitude, l'universalité et la liberté de sa nature. Ce qu'il faut donc éliminer, c'est l'objet en tant que réalité extérieure à l'homme, car elle lui est alors hostile et oppose son être à celui de l'homme qui ne se retrouve jamais dans cet autre. Donc c'est l'autre qu'il faut éliminer à tout prix. Alors ensuite, l'aliénation religieuse. Feuerbach montre que l'essence du christianisme, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme. L'homme a non seulement conscience de son individualité, mais encore de l'universalité et de l'infinité de son espèce. Par la raison, le cœur, la volonté et la liberté que l'homme possède, la vie humaine n'a aucune limite. Mais ayant conscience de l'écart qui existe entre la dimension infinie de son espèce et son existence individuelle, il projette son être propre hors de lui sous la forme d'une réalité transcendante qu'il nomme Dieu. Pour Marx, c'est l'aliénation ultime, la plus extrême, conséquence de toutes les autres. Il reprend ce qu'en dit Feuerbach, mais il transforme espèce générique en l'ensemble des rapports sociaux, ce qui est plus, plus concret. Cette aliénation étant causée par les autres, il faut commencer par détruire celle-ci. Et notamment, c'est l'aliénation économique qui est la première des aliénations. Le processus de fétichisme de la marchandise est dû au fait que tout dans la société capitaliste est déterminé par la marchandise, la valeur d'échange, l'argent et le capital. C'est l'aliénation de l'activité productrice de l'homme et par là du travail lui-même, transformé en réalité indépendante, étrangère, dominatrice et oppressive par l'entremise de l'argent. Et c'est d'autant plus profond que cette activité productrice, c'est l'homme lui-même. Parce que pour Marx, homme égale travailleur. C'est la nature de l'homme d'être travailleur. On peut donc dire que l'aliénation économique conditionne toutes les autres, celle-là affectant en premier lieu le prolétariat. Alors le prolétariat est un élément nécessaire du système capitaliste. L'ouvrier donne sa force de travail au capital contre un salaire. Mais la force de travail apporte plus de valeur que le salaire. Et cette différence, c'est la plus-value qui, accaparée par le capitaliste, va grossir le capital. Or, le capital emploie l'ouvrier et les possesseurs du capital sont de moins en moins nombreux, tandis que les prolétaires augmentent. Et donc, la masse misérable prolétarienne croît. Cependant, le salarié n'a que sa force personnelle, ne possédant ni matière, ni instrument, ni de quoi faire de la force ouvrière un mouvement productif. Alors, en quoi consiste l'aliénation du prolétariat ? Tout d'abord, l'ouvrier est aliéné par rapport au produit de son travail qui lui échappe et dont il est dépossédé par le capitaliste. Or, le produit du travail, c'est le travail fixé dans un objet. Ainsi, la propriété privée, qui est l'attachement à des objets, abstraction faite de l'activité qui les a produits, contribue à l'aliénation du travailleur. Il y a donc une déréalisation de l'ouvrier. Ce produit dont on le sépare devient le capital. Et c'est là l'aliénation. À produire un ouvrage qui lui est enlevé, l'ouvrier travaille à sa propre dépossession. Ainsi, l'activité productive qui devrait permettre de transformer et dominer la nature et dans laquelle l'homme devrait pouvoir s'épanouir s'impose en fait à l'ouvrier comme une réalité étrangère et oppressive. C'est donc une aliénation par rapport au travail lui-même. De plus, il y a toujours à ce niveau une aliénation de l'homme par rapport à la nature. La nature étant extérieure au corps de l'homme, elle l'aliène et est inorganique. Or, par sa richesse, elle peut lui être semblable et répondre à l'universalité de l'activité humaine. Cependant, dans le système capitaliste, la nature, comme pour l'animal, ce n'est qu'un moyen d'existence pour l'ouvrier. Il y a donc une opposition entre la potentialité illimitée de l'homme et l'étroitesse de ses conditions d'existence. Enfin, il y a une aliénation de l'homme par rapport à l'homme. Le capitaliste, en tant que propriétaire du produit de l'ouvrier, l'aliène parce qu'il le met dans une situation d'esclave. C'est pour ça qu'il y a une scission absolument irrémédiable et l'opposition la plus absolue entre l'ouvrier et non-ouvrier, étant donné que le capitaliste n'est pas considéré comme un homme. Il n'a pas la même essence que l'ouvrier. Donc il n'y a aucun rapport possible. L'aliénation économique prive l'ouvrier de tout l'humain face au bourgeois capitaliste qui jouit de tout l'avoir humain, richesse, culture, raffinement, de toutes les valeurs humaines. Ainsi, le prolétariat, c'est la perte totale de l'homme. Le prolétaire a donc le droit de revendiquer d'être un homme. Bien que n'étant qu'une classe de la société, il représente la société tout entière, l'homme tout court. Alors que les autres classes ne savent que revendiquer leurs droits particuliers, il appartient au prolétariat de faire la révolution de l'humanisme absolu, n'étant aucunement renfermé dans une réalisation limitée de l'homme. Et c'est au moment où il est universellement dépossédé que l'homme, se trouvant détaché de ses conditions d'existence limitatrices de sa puissance, est libéré de toute dépendance par rapport aux données qu'il recevait jusqu'alors de façon passive. Désormais, il reprend lui-même radicalement ce monde humain qu'il ne devra plus qu'à lui-même. Et c'est donc la pauvreté absolue qui va engendrer une nouvelle richesse intérieure. Cette pauvreté est la caricature de la pauvreté évangélique, en quelque sorte. Après un quasi-anéantissement de lui-même, l'homme refait le monde à son image, par l'extension de sa puissance illimitée. Donc c'est lui qui devient le créateur. Cette reconquête ne se fait que par la révolution. La classe bourgeoise, dépouillant l'homme de lui-même et le dressant ainsi contre lui-même sous le masque de l'autre, la seule solution, c'est la lutte contre cet ennemi. Pourquoi ? Parce qu'il est autre. Remarquons au passage que Marx choisit de regarder les prolétaires comme des choses, sans regarder comme un simple phénomène historique, sans regarder leurs aspirations, leurs finalités, ni leur dimension éthique. Ils ne s'occupent pas de ce qu'ils veulent ou s'ils aiment, mais plutôt, le prolétaire, c'est la réalisation, la matérialisation de l'idée de prolétaire, dont la signification est par ailleurs totalement univoque. Alors, j'ai choisi un texte tiré des manuscrits de 1844. En quoi consiste la dépossession du travail ? D'abord, dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son être. Que dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme pas, mais se nie. Qu'il ne s'y sent pas satisfait, mais malheureux. Qu'il n'y déploie pas une libre énergie physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. C'est pourquoi l'ouvrier n'a le sentiment d'être à soi qu'en dehors du travail, de son travail. Dans le travail, il se sent extérieur à soi-même, il est lui quand il ne travaille pas, et quand il travaille, il n'est pas lui. Son travail n'est pas volontaire, mais contraint. Travail forcé, il n'est pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. La nature aliénée du travail apparaît nettement dans le fait que dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, on fuit le travail comme la peste. Le travail aliéné, le travail dans lequel l'homme se dépossède, est sacrifice de soi, mortification. Enfin, l'ouvrier ressent la nature extérieure du travail par le fait qu'il n'est pas son bien propre, mais celui d'un autre, qu'il ne lui appartient pas, que dans le travail, l'ouvrier ne s'appartient pas à lui-même, mais à un autre. On en vient donc à ce résultat que l'homme, l'ouvrier, n'a de spontanéité que dans ses fonctions animales, le manger, le boire et la procréation, peut-être encore dans l'habitat, la parure, etc. Et que dans ses fonctions humaines, il ne se sent plus qu'animalité. Ce qui est animal devient humain, et ce qui est humain devient animal. Alors le travail est extérieur, étranger à la nature du travailleur. C'est pourquoi il est malheureux, frustré, et se détruit dans tout son être. À cause de ce travail aliéné, l'ouvrier n'est lui-même qu'en dehors de ce travail. En effet, le travail du prolétaire se réduit à une contrainte, à un simple moyen, alors qu'il devrait être une fin en soi, un bien intrinsèque de l'homme. Il ne s'appartient pas lui-même. En perdant sa dimension de travailleur, l'homme perd tout. L'homme perd en même temps sa raison d'être, sa nature même. Parce que pour Marx, il n'y a pas de personne humaine. Il y a un rapport dialectique entre l'aliénation économique et l'aliénation religieuse. pour le marxisme, les biens spirituels sont illusoires et découlent de la privation des biens matériels qui seuls sont les biens véritables. Marx dit d'ailleurs, la misère religieuse est l'expression de la misère réelle, le soupir de la créature accablée par le malheur. Et donc, en supprimant la misère réelle, on supprime l'opium du peuple. Ainsi, c'est pour compenser misère, pauvreté et injustice qu'on fait appel au bonheur de l'au-delà et à un prétendu législateur juste. Marx nous montre le lien très fort, dialectique, qui existe entre aliénation économique et aliénation religieuse. Citation, toujours des manuscrits de 1844. Plus le travailleur s'adonne au travail, plus puissant devient le monde étranger, objectif, qu'il crée en face de soi, et plus il devient lui-même pauvre, moins son monde intérieur lui appartient en propre. Il en va de même dans la religion. D'autant plus l'homme est en Dieu, d'autant moins conserve-t-il pour soi. Le travailleur dépose sa vie dans l'objet, mais dès lors, elle ne lui appartient plus. De plus, la sacralisation de la misère par la religion a favorisé l'acceptation par l'ouvrier de sa dépendance à l'égard du capitaliste. Enfin, l'idée d'une dépendance par rapport à un créateur provient de ce que le peuple est sociologiquement dépendant. En effet, étant salarié du capital, l'homme ne peut pas prendre conscience de l'existence par soi de lui-même et de la nature à cause de la domination aliénante du capitaliste. Enfin, il y a une aliénation politique. Il y en a deux formes pour Marx. Tout d'abord, celle que prône la Déclaration des droits issue de la Révolution bourgeoise de 1789. La prétendue liberté qui en résulte est en fait purement illusoire. Les citoyens qui se croient libres sont en fait oppressés par la société. Ainsi, l'homme s'imagine vivre dans la politique ce qu'il ne peut pas vivre dans la réalité. Et là, on voit bien la ressemblance avec l'aliénation religieuse. Il y a d'autre part l'État hegélien. Pour Hegel, il y a deux niveaux. En premier lieu, celui de la société bourgeoise individualiste où règne la concurrence d'intérêts particuliers. Cette société n'a qu'une unité extérieure et répond bien à la vision de Smith, le libéral. D'un autre côté, il y a l'État, qui non seulement maintient l'ordre extérieur, mais aussi est un organisme moral supérieur auquel l'individu doit adhérer pour dépasser son égoïsme et atteindre à l'universel et à la raison. L'État est pour Hegel un sujet, et pour être vivant, il doit s'incarner dans la personne du monarque. Et c'est pour Marx une aliénation. L'État hegélien, en effet, ne supprime pas la société bourgeoise, il la surplombe et maintient par conséquent tous les égoïsmes dont elle est tissée. De plus, il y a toujours en l'homme, dans la conception hegélienne, une dualité céleste-terrestre. Citation, l'existence dans la communauté politique où il se considère comme un être général et l'existence dans la société civile, où il voit les autres hommes comme de simples moyens et se rabat lui-même au rang de simples moyens, devenant le jouet de puissances étrangères. Ainsi, l'État s'oppose dialectiquement à la société, de la même façon que la religion à l'égard du monde profane. En tant qu'individu, le citoyen est un phénomène inauthentique. Dans l'État, il n'est que le membre imaginaire d'une souveraineté imaginaire, dépouillée de toute réalité. Voilà la critique que Marx fait envers Hegel. Et Marx s'attache ici à montrer le lien de l'aliénation politique avec l'aliénation religieuse. Pour supprimer la religion, il faut supprimer la conception bourgeoise démocratique de l'État, qui est l'humus de la religion, celle-ci s'appuyant sur la propriété privée. Alors, Je vais maintenant parler de la praxis qui est la solution pour Marx à l'aliénation. Tout d'abord le thème de la praxis. Le matérialisme marxiste consiste à croire que le mode de production de la vie matérielle, l'économie, conditionne le processus d'ensemble de la vie sociale, politique et spirituelle. Les conditions économiques sont la structure et le principe des institutions politiques, juridiques, morales et religieuses. C'est donc un matérialisme historique. C'est dans son activité immanente, matérielle, que l'homme trouve la raison de ses pensées. Engels va jusqu'à dire qu'il y a deux conceptions philosophiques, l'une idéaliste, préconisant la primauté de l'esprit et donc une création du monde, l'autre matérialiste, considérant la nature comme élément primordial. En fait, le matérialisme, aussi bien que l'idéalisme, élimine l'objectivité de la réalité autre en projetant en nous l'origine de nos idées. Cette erreur, on le voit bien, est issue de l'idéalisme de Descartes, qui se sert de l'idée d'infini qu'il a en lui pour prouver l'existence de Dieu. La causalité de cette idée que Descartes attribue à Dieu, le matérialisme historique l'attribue à l'homme. Cette restitution repose sur la priorité d'une notion sur son objet. Or, Marx accepte ce subjectivisme sans se poser de questions, parce que cela lui paraît évident. En partant d'un a priori, Marx rejette la contemplation au profit de l'action. Au commencement était l'action. Mais il va encore plus loin. Voilà sa façon de regarder l'histoire. L'homme primitif a une pensée complètement liée à ses actions élémentaires. Puis, son action évoluant, il se fait une distinction entre pensée et action matérielle, en même temps qu'entre la classe de ceux qui s'enrichissent et la classe des dirigés. Cela aboutit à la distinction entre classe capitaliste et classe prolétaire. Et c'est seulement au paroxysme de cette distinction que la pensée se fait critique et dissout son propre fondement, dénonce la société et enfin devient révolutionnaire. La pensée alors se fond à nouveau dans l'action comme jadis. Mais grâce à cette pensée critique, l'action devient beaucoup plus grande et complexe. Il y a une conscientisation qui se produit. C'est donc une évolution en spirale, la phase intermédiaire de séparation entre pensée et action étant nécessaire. Pour le matérialisme historique, la vérité de l'idée tient à l'origine, c'est-à-dire la pensée dont elle émane. Mais par déviation, dit-il, nous nous attachons à l'objet qu'elle représente comme un absolu autonome, autre, en relativisant ainsi sa base matérielle originelle et même en la dirigeant. Et pour remédier à ce relâchement et cette concurrence entre l'objet de l'idée et son origine dans la pensée, Marx va fondre pensée et action dans le mouvement même où la pensée se porte vers son objet. Il reproche à Feuerbach de considérer la réalité sous forme d'objet, ce qui est lui donné une forme d'altérité, et le sujet comme passif dans sa réceptivité, et de voir celui-ci comme contemplatif devant l'objet, qu'il ne modifie pas. C'est là le danger d'une emprise de la réalité, de la nature, et enfin de Dieu sur l'homme. Or voilà la solution que prône Marx. Une fois écartée sa valeur d'objet, la réalité extérieure doit être saisie dans une valeur d'effet, de produit de l'activité pratique humaine concrète. Alors que la connaissance ne rend pas le sujet présent dans l'objet par l'activité pratique, l'action du constructeur, par exemple, se retrouve dans l'objet créé. Seulement, Marx étend à tout objet du monde environnant la transition par l'activité humaine pratique du sujet dans l'objet. Contrairement à ce que croit Feuerbach, le monde sensible selon Marx, n'est que le produit de l'industrie et de l'état de la société. Et cela en ce sens qu'il est un produit historique. Les philosophes, dit Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Eh bien, c'est toute la philosophie spéculative que Marx veut dépasser ici. Il vise donc tout philosophe contemplatif, idéaliste ou matérialiste, qui voit dans le monde une valeur de révélation de l'être, de l'esprit, de Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est le monde comme objet de la transformation par l'homme, d'où la nécessité de révolutionner le monde existant. Ainsi, au lieu de commencer par regarder passivement la réalité extérieure en tant que telle, il faudra que la pensée se coule tout entière dans l'action transitive et que son mouvement coïncide avec celui de l'action. Ce renoncement à l'indépendance de la vie intérieure de la pensée, c'est le dépassement de l'attitude spéculative. Voilà la praxis au sens marxiste du mot. Et donc le travail va devenir but et essence de l'homme. Marx s'attache à montrer que le travail humain est bien différent du travail animal. En effet, par son intelligence et sa volonté, l'homme est beaucoup plus profondément cause de son œuvre que l'animal. Bien plus, par son travail, l'homme est cause de sa propre existence. Dans son activité productrice, qui est son être même, l'homme transforme sa nature elle-même. Et c'est au-delà de la nécessité de satisfaire ses besoins, tout en s'appuyant sur elle, que le règne de la liberté et du développement des puissances de l'homme, qui est à lui-même sa propre fin, s'établit dans l'exaltation du travail. Je vais lire un texte tiré du Capital. Le règne de la liberté commence là où finit le travail déterminé par le besoin et les fins extérieures. Par la matière même des choses, il est en dehors de la sphère de la production matérielle. Mais un règne de la nécessité subsiste toujours, les nécessités matérielles de l'existence. Et c'est au-delà de ce règne que commence le développement des puissances de l'homme, qui est à lui-même sa propre fin, qui est le véritable règne de la liberté. Il est donc bien clair que pour trouver en lui-même sa propre cause et sa propre fin, l'homme doit exercer un travail affranchi de toute soumission à un objet extérieur à son activité. Et alors, il acquiert indépendance et liberté et se tient par lui-même et pour lui-même. Le travail, pour Marx, c'est de façon ultime la concrétisation de la liberté kantienne. Il est intéressant de remarquer qu'on retrouve dans le travail, deux caractères de la contemplation. D'une part, c'est une opération qui procède vitalement du sujet qui la pose, et d'autre part, celle-ci n'est ordonnée à aucune autre fin qu'elle-même. Seulement, contrairement au travail, la contemplation est viscéralement attachée à son objet, alors que le marxisme développe l'indépendance absolue dans la suprématie de son pouvoir producteur sur la connaissance et l'amour. À ce propos, nous pourrions dire à l'égard du marxisme ce que saint Augustin dit de Lucifer. Il a préféré jouir de sa propre puissance plutôt que de Dieu. L'homme doit trouver dans le travail l'affirmation plénière de sa nature. Celui-ci ayant été épuré au préalable de toute notion, telle que punition originelle, moyen de vivre d'une vie nécessiteuse, aliénant, etc. Chez Marx, le travail est la plus haute activité de l'homme, celle où il se fait cause et fin dernière de lui-même. L'homme est avant tout producteur et créateur, d'où le primat de l'homo faber. Et c'est en cela que le marxisme se dit pratique. Il établit en ordre inverse de la philosophie réaliste la dépendance de la connaissance et de l'agir par rapport à l'activité productive afin de soustraire l'homme aux subjectivités de la vie intérieure et au dépassement vers un au-delà de lui-même. Pour Marx, la valeur du travail est une réalité objective, puisqu'elle ne dépend pas de spéculations subjectives et absolues, en ce sens que chaque marchandise a une valeur réelle. La valeur d'une chose, en effet, c'est la quantité de travail qu'elle a nécessité pour sa production. Et la moyenne de temps de travail qu'une chose a exigé pour sa production déterminera la valeur absolue de chaque chose. Or, l'économie conditionne le travail. Aussi, Marx veut-il soustraire la force de travail à l'exploitation de la plus-value et donc la soustraire au marché, le travail devant être non point une simple valeur, mais la source de toute valeur. Pour cela, il faut associer tous les travailleurs en une puissance qui sera la seule référence économique absolue et qui les fera s'émanciper des lois naturelles, offre et demande. Il est donc nécessaire de remettre le travail à la base de la vie sociale et même de la science afin d'abolir l'injustice et l'exploitation. Marx libère la révolution industrielle de la propriété privée et la philosophie idéaliste de son côté abstrait et idéologue pour faire aboutir ces deux courants à l'élaboration de la praxis, le travail humain dans toute sa puissance. Dès lors, connaissance et agir se fondent en se subordonnant au facere. Et le résultat, c'est l'homo faber, l'homme libre, dominateur, conscient et puissant du fait qu'il se crée lui-même et façonne l'univers à son image. Alors, je vais voir maintenant la négation de Dieu. La négation de Dieu est dépassée par l'affirmation de l'essence de l'homme. Tout en s'opposant à la création, Marx reconnaît qu'il est très difficile de l'extirper de la conscience du peuple. Nier un créateur contredisant l'évidence immédiate et pratique. Il s'agit donc de supprimer la religion, jusque dans ses causes. En fait, lorsque la praxis autocréation se réalisera, la question de Dieu sera résolue. En effet, Marx exclut Dieu du cercle dialectique. De la synthèse entre l'homme abstrait, théorique, et la nature extérieure, doit résulter l'homme concret, qui est son propre Dieu immanent. Vous citez un texte, toujours extrait des manuscrits de 1844. Si la réalité essentielle de l'homme et de la nature, si l'homme qui est pour l'homme l'existence de la nature, et la nature qui est pour l'homme l'existence de l'homme sont devenus un fait, quelque chose de concret, d'évident, la question d'un être étranger, d'un être placé au-dessus de la nature et de l'homme est devenue pratiquement impossible. Cette question impliquant l'aveu de l'inessentialité de la nature et de l'homme. L'athéisme, comme dénégation de cette non-essentialité, n'a plus de sens, car l'athéisme est une négation de Dieu et pose par cette négation l'existence de l'homme. Mais le socialisme, comme socialisme, n'a plus besoin d'une telle médiation. Marx nous montre que la nature, dont est issu l'homme, constitue son essence même. Or, la nature est transformée par l'homme dans la praxis. Ainsi, celui-ci humanise la nature et se crée lui-même. La question de l'existence de Dieu n'a donc plus de sens, puisque l'homme se suffit parfaitement à lui-même. Il se divinise par la praxis. Il faut préciser que l'homme est un être social. En effet, par la nature, l'individu communie avec toute l'humanité et accède alors à la dignité d'être générique. Alors, l'athéisme de Marx est en fait un anti-ontologisme. Marx exclut toute transcendance au nom de l'autonomie de la raison. Et il fait sienne la devise de Prométhée « Je hais tous les dieux ». En effet, la divinité de la conscience humaine ne souffre aucune rivale. La raison est libre, donc athée. La vision ontologique est diamétralement opposée à celle de Marx. En effet, selon l'argument ontologique, le monde et l'homme ne sont vus que dans la lumière de la sagesse de Dieu. Et donc, l'homme n'est pleinement intelligible que relatif au Créateur. Marx, au contraire, voit l'homme et le monde à travers une vision dialectique. Le monde est relié à l'homme sans autre dépendance extérieure. Ainsi, l'homme n'est pleinement intelligible que dans sa relation dominatrice avec la matière. De plus, alors que l'adoration dans une perspective religieuse libère l'homme de tout conditionnement, pour Marx, c'est la praxis qui joue ce rôle et qui permet à l'homme de se libérer lui-même. D'autre part, l'ontologisme consiste à partir du fait que nous avons en nous l'idée de Dieu et en déduire l'existence de Dieu. Au contraire, pour Marx, citation, toutes les preuves de l'existence de Dieu sont des preuves de sa non-existence, des réfutations de toutes les conceptions qu'on s'est faites de Dieu. Les preuves réelles devraient dire au contraire, parce que la nature est mal organisée, Dieu est. Parce qu'il y a un monde déraisonnable, Dieu est. Parce que la pensée n'est pas, Dieu est. Mais qu'est-ce à dire, sinon que pour l'homme qui considère le monde comme déraisonnable, qui est par conséquent déraisonnable lui-même, Dieu existe. Autrement dit, la non-raison est l'existence de Dieu. Cité de Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure. Alors, il retourne donc l'argument en disant que la raison est de soi athée et donc seul le désordre et tout ce qu'il y a de déraisonnable peut prouver l'existence d'un Dieu, alors que l'ontologisme prouvait l'existence de Dieu par l'ordre du monde et la raison. Ainsi, l'existence de Dieu se démolit-elle d'elle-même.
L'homme est créateur, comment Marx explique-t-il la mort ?
Oui, c'est ça, il travaille plus. Je ne sais pas s'il aborde le problème.
Il en parle, il renvoie à l'espèce.
Ah oui, c'est ça, oui. Oui, parce qu'il
qu'est-ce qui prime à ton avis pour Marx ? Est-ce que ce serait plus une réaction contre le libéralisme ou contre l'ontologisme ? Ou est-ce que c'est indissolublement lié ?
Je ne sais pas s'il pense à l'ontologisme.
Quand même. Il pense quand même certainement à ceux qui voient
Dieu. Ah bah oui, oui.
Mais est-ce que l'économie pour lui est tellement liée à l'économie libérale est tellement liée à une vision un peu capitaliste de la religion, enfin, si on peut dire, que finalement il fait un mélange indissoluble entre les deux, ou est-ce que c'est dans le souci de répondre au libéralisme que de fait il répond à l'anthologie?
C'est-à-dire, il me semble au départ, il a une vision fausse de la religion du fait de du milieu où il est. Déjà, son père est un protestant, enfin pas tellement convaincu. Non, mais pas très convaincu. C'est dans un milieu qui est vraiment... Ça fait beaucoup. Il était dégoûté peut-être de la religion. C'est ce que je pense. Alors, il a une vision fausse.
Le lien entre le capitalisme et le protestantisme qui a été étudié par, oui, par Max Weber, qui est important aussi, c'est dans un certain protestantisme libéral, la réussite économique est un signe de prospérité spirituelle, de bénédiction.
La richesse est un signe de bénédiction de Dieu.
Il était élevé dans un milieu qui identifie un peu le protestantisme capital et la société.
Dans le contexte de Marx, est-ce que c'est pas justement le problème de la production? Il dit bien, il précise toujours que la praxis, c'est d'abord les forces de production économique. Il revient tout le temps à ça. C'est le seul moteur. Si on transforme ça, on transforme tout, il n'y a plus de problème de vie.